Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Betza, page 4, Daf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, puisque nous avons ici un mélange entre de la Trouma et du Choulin, Rohim et Aylionot, Kiloan Poudot. On verra les couches supérieures de tous ces pains de figues qu'il a devant lui, comme s'ils étaient séparés des couches inférieures, Vatartonot, Malot et Aylionot. Et à ce moment-là, nous verrons comme si chacune des couches sont séparées, et en fait, donc nous avons tout un groupe de couches de figues sèches dont nous avons un doute quant à la nature de ces figues. Nous ne savons pas s'ils sont Trouma ou non. Et donc, puisque pour annuler la Trouma, il faut une quantité de 100 fois de Choulin contre une mesure de Trouma, si nous avons en tout, entre les couches supérieures et les couches inférieures, 100 couches permises contre une couche interdite, nous pourrons appliquer le principe de Bitoul, et donc une de ces couches devra être donnée au Kohen, et tout le reste sera permis. Et cela, bien que les couches inférieures n'ont rien à voir avec le doute, en fait nous sommes en doute nous n'avons en doute qu'à propos des couches supérieures, mais puisqu'il s'agit ici d'une Trouma des Rabbanan, comme nous avons expliqué, et aussi le fait qu'il faut 100 fois de 100 mesures permises contre une mesure interdite à propos de l'alakha de Bitoul pour la Trouma, c'est aussi une alakha de Rabbanan. C'est pourquoi Rabbi Eliezer est plus coulant à cet égard et fait rentrer en ligne de compte même des mesures à propos desquelles nous n'avons pas de doute. Rabbi Yehoshua Omer dit, en fait il est plus strict à cet égard, il m'yécha mea poumin, s'il y a 100 couches supérieures, c'est-à-dire il a 100 pains de figues sèches, donc nous avons 100 couches supérieures, Yahalou, nous pourrons procéder au bitoul comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire on prendra une couche supérieure, on la donnera au Kohen, et le reste sera permis. Vimlav, et sinon, si nous n'avons pas 100 couches supérieures, donc nous n'avons pas 100 pains de figues permises contre une interdite, Hapumin Asurim, nous interdirons toutes les couches supérieures de tous les pains de figues, Vashulai Mutarim, par contre, les couches inférieures seront permises. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Rabbi Yehuda dit une autre version sur cette machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer Omer dit, Im yesha mea pumin yalu, s'il y a 100 couches supérieures, donc 100 pains de figues, dont nous avons un doute à propos de la couche supérieure, s'il est Trouma ou non, yalu, nous pourrons procéder au bitoul, comme nous l'avons expliqué. Vimlav, et sinon, s'il n'y a pas 100 pains, hapumin asurin, toutes les couches supérieures seront interdites, Vashulai Mutarim, par contre, les couches inférieures seront permises. Rabbi Yehoshua Omer dit, Afilu Miesham Shlosh Meot Pumin, même s'il y a non pas 100 couches supérieures, donc 100 pains de figues, mais 300 couches supérieures de figues, Lo Yahalu, nous ne pourrons pas procéder au Bitoul. Donc là, nous voyons que l'avis de Rabbi Yehoshua est que puisque toute chose qui peut être comptée, par exemple, dans le cas où chacune des couches des figues peuvent être comptées séparément, donc c'est quelque chose de bien défini, les lois de Bitoul ne pourront pas s'appliquer, même s'il s'agit ici d'une interdiction midrabana. Donc là aussi, nous dirons donc que l'auteur de la Braïta qui interdisait tous les œufs si un œuf provenant d'une poule qui est très fin s'est mélangé à eux et Rabbi Yehoshua, et c'est pourquoi donc les lois de Bitoul ne s'appliquent pas. Et cela même si les œufs ne sont pas uniquement vendus à l'unité, mais en tout cas les œufs peuvent être comptés. La braïta continue. Darsa Beigoul, s'il a pressé donc cette quantité d'une litre de figues séchées dans un rond ou un pain de figues sèches, Benoda Beigoul Darsa, il ne se rappelle plus dans quel des pains il l'a pressé. Divrei Hakol Yahalu, tout le monde est d'accord qu'on pourra procéder au bitoul. La Gemara demande, Divrei Hakol, est-ce que tout le monde est d'accord? Hainu Pluktayu? Nous venons de voir qu'il y a une discussion à ce sujet. C'est justement leur marloquette. L'agma répond, Amar a dit, Rafapa. Harikama, c'est ainsi que la Braïta a voulu dire. Darsa Beigoul, s'il a pressé cette litra de figues sèches dans un rond ou dans un pain de figues séchées, Deinodea Bezemakom Igoul Darsa, mais il ne se rappelle plus dans quel endroit de ce pain il l'a pressé. Il est Tsfona Olidroma, si c'est au nord de ce pain ou au sud de ce pain. Donc finalement, cette quantité d'une litra de figues sèches n'est plus dans un endroit défini, on ne se rappelle plus où elle est. Divrei Hakol Yahalu, là tout le monde est d'accord qu'on pourra procéder au bitoul comme on le fait habituellement pour la Trouma. Donc si nous avons 100 parts de Trouma de Khulin et une part de Trouma, nous pourrons procéder au Bitoul. Une sera donnée au Kohen et tout le reste sera permis. Rav Ashi Amar dit, en fait, il propose une autre réponse à la question qu'on avait contre Rav Yosef et Rabbi Yitzhak. Rappelons, la question contre Rav Yosef et Rabbi Yitzhak était, comment ça se fait si l'œuf pendu, le Yom Tov, est interdit juste à cause d'un décret Midrabanan, pourquoi la Braïta interdisait cet œuf en cas de doute? Alors, Rav Ashi dit, le Olam, ça fait Yom Tov, ça fait Krol. Toujours pourrais-je te dire que la Braïta, dans la Braïta, il s'agit d'un doute si cet œuf a été pendu Yom Tov ou un jour de semaine, mais Haved Avash Eshloma Tiri, puisqu'il s'agit ici de quelque chose, d'une interdiction qui sera permise par la suite, le Chol Davash Eshloma Tiri, et toute chose qui sera permise par la suite, à Filou Bederabanan Alobatil, même s'il s'agit d'une interdiction Bederabanan, la loi de Bitoul ne s'appliquera pas, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors Rav Ashi ici ajoute que, puisque les lois de Bitoul ne s'appliquent pas, nous dirons aussi qu'en cas de doute, nous serons plus stricts, puisque finalement, le lendemain, ou une courte période de temps après, cette interdiction sera permise de toute façon, donc il n'y a pas lieu d'être coulant en cas de doute. Nous avons fini le shiur de Betsadav Gimel. Nous commençons le shiur de Betsadav Dalet, au tiers, d'Avdalet Amudalef, au tiers de la page. Tania, nous enseignons dans une breta. Acherim omrim mishum Rabbi Lezer, Betsat et Achel hi beima. Donc dans cette breta, on voit, Rabbi Lezer nous enseigne que l'œuf pendu le Yom Tov pourra être mangé lui et sa mère, donc la poule. La Gemara demande, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Rabbi Lezer a voulu nous enseigner? Il est ma bêta negolet omedet la achila. S'il s'agit ici d'une poule qui était destinée à être mangée, et donc nous voudrions dire que Rabbi Lezer voulait nous enseigner que la halakha est comme Bet Shamay qui dit que l'œuf pendu le Yom Tov est permis. En pshita, il est évident de hivi macharia que soit la poule, soit l'œuf, soit la poule sera permise. Puisqu'il s'agit ici d'une poule qui est destinée à être mangée, donc il est évident qu'on a le droit de la manger. Et là, seulement nous dirons qu'il s'agit ici d'une poule destinée à pondre des œufs. Alors si c'est comme ça, selon l'avis de Rabbi Eliezer, soit l'œuf, soit sa mère, donc soit la poule, seront interdits, puisque nous voyons dans une Mishnah plus loin, dans Lamedal et Amud Aleph, que Rabbi Eliezer tient compte du principe de Moutse. Il dit qu'on n'aura pas le droit d'utiliser quelque chose qui est entreposé pour une longue période, s'il ne s'est pas mis devant cet entrepôt avant Yom Tov, en désignant ou en disant qu'il allait effectivement utiliser de ce qui était entreposé dans cet entrepôt. Donc nous voyons que Rabbi Lezer tient compte du principe de Moukseh. Alors l'Agma répond, Amar a dit Rabbi Zera, Teachel Agavima. En fait, Rabbi Lezer voulait nous enseigner qu'on pourra manger l'œuf en même temps que la mère, Hechidami. Dans quel cas il s'agit? Amar a dit Abaye, Kugon Shelakrastam. Il s'agit ici dans un cas où la personne qui a acheté cette poule l'a acheté sans intention particulière. Nous estimons donc qu'il avait en tête soit de manger cette poule pour Yom Tov, soit il la laissera pour il la gardera pour pondre des œufs. Alors Nishrata, si il a abattu cette poule pendant Yom Tov, couvrira de la Khila Omedet. Il s'avère donc que depuis l'achat, cette poule était destinée à être mangée, et donc c'est pourquoi on pourra aussi manger l'œuf. Lo Nishrata, par contre, si jusqu'à la fin du Yom Tov, il n'a pas fait la shrita de cette poule, couvrira del gadel betsim omedet. Il s'avère donc qu'en fait il n'avait pas acheté pour la manger pendant un Yom Tov, mais il l'a laissé, ou il l'a acheté dans l'intention de la garder pour faire pondre des œufs, et donc l'œuf aussi sera interdit. C'est pourquoi donc le fait de manger l'œuf dépend de la poule. Si on mange la poule, on pourra manger l'œuf, sinon on ne pourra pas manger l'œuf. Rav Marie Amar dit, en fait, dans la Braïta, on n'a pas voulu nous enseigner quelque chose de particulier en disant qu'on pouvait manger la poule, mais Guzma Katane, il a voulu employer un langage d'exagération. Détania, comme nous voyons dans une autre Braïta, qui ramène les mêmes propos avec un supplément, Acherim Omrim disent, Mishum Rabbi Eliezer, Betsa Teachel Hiveima, l'œuf pondu pendant Yom Tov pourrait être mangé elle et sa mère, donc la poule, Vefroar Biklipato. On peut manger le poussin et sa coquille. La Gemara demande, Michael Pato, que veut dire la Breta quand on nous a dit qu'on peut manger aussi la coquille de l'œuf d'où est sorti le poussin? L'eau. Il est Maklipa Mamash, si la Breta voulait dire qu'on pouvait manger la coquille elle-même, Klipa Batachilahi, est-ce que la coquille est mangeable? Et là, est fort que Klipato. Seulement nous dirons que la Breta voulait dire qu'on pouvait manger le poussin étant encore dans la coquille de l'œuf. Alors là aussi, ce n'est pas possible. Adkan, l'opligé Rabbanan, allez, jusque-là, nous n'avons pas vu que les Rabbanan sont en désaccord avec Rabbi Elazar ben Yaakov. Et là, comme nous le verrons plus loin, Davar Amudbet, et là, Echad, Yatsala Vira Olam, juste, leur discussion se situe juste dans le cas d'un poussin éclos de sa coquille. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, ce poussin ne pouvait pas être mangé jusqu'à ce qu'il atteigne le stade qu'il ait déjà ouvert les yeux, alors que les Chachamim permettent la consommation de ce poussin dès qu'il sort de la coquille. Avalecha de l'Eatala Vira Olam, mais dans le cas où le poussin n'est pas encore sorti de l'œuf, l'obligé, il n'y a pas de discussion à ce sujet, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas manger ce poussin. Et là, c'est pourquoi nous serons obligés de dire Efroach Beklipato Guzma, puisqu'il s'agira ici du cas d'un poussin sorti de sa coquille pendant Yom Tov. La Breta en fait nous enseigne que le poussin pouvait être mangé, et même sa coquille, et en fait Guzma. C'est un langage d'exagération. Hachanami, alors là aussi dans la Breta précédente, et aussi au début de la Breta que nous venons de voir, Teachel Hiveima, là où la Breta nous enseigne que l'œuf pouvait être consommé en même temps que sa mère, Guzma, c'est aussi un langage d'exagération. Itma, nouveau sujet, il a été dit une discussion à propos du sujet suivant, Shabbat ve Yom Tov, dans le cas où un Shabbat et un Yom Tov se suivent. C'est-à-dire dans le cas où le Yom Tov tombe un dimanche ou un vendredi. Rav Amar dit, Nolda Beze, Asura Beze. Un œuf pondu à un des deux jours, c'est-à-dire où soit le vendredi si le Yom Tov tombe un vendredi, soit le Shabbat si le Yom Tov tombe un dimanche, l'œuf ne sera non seulement interdit à la consommation le jour où il a été pondu, mais même aussi le lendemain qui est un Shabbat ou un Yom Tov selon le cas. Rabbi Yochanan Amar dit, Nolda Beze, Muteret Beze. L'œuf pondu un des deux jours, soit Shabbat ou Yom Tov, pourra être permis le lendemain, même si c'est un Shabbat ou un Yom Tov. La Gemara demande, Nema kasavar Rav Kedusha Achadhi. Est-ce qu'il est possible de dire que Rav considère les deux jours donc de Shabbat et de Yom Tov qui se suivent comme étant une seule longue journée, et donc ce qui est interdit l'un, automatiquement est interdit le deuxième jour? Ce n'est pas possible, parce que Veha Amar Rav, voici que nous savons que Rav a dit, Halacha, Kearba Zekenim Valiba de Rebel Yeter. Halacha est comme les quatre sages qui disent, qui vont selon l'avis de Rabbi Lezer, qui dit, de Amar, qui dit, Shdek Tushodhen, deux jours de Shabbat et de Yom Tov qui se suivent sont considérés comme deux jours et non pas comme une seule journée. Cette halacha a été dite dans la Maseret Urbin à propos de halachot de Eruv Trumin, qui est le fait de déposer de la nourriture à la limite des 2000 coudées réglementaires. Qui est la distance autour de la ville où on a le droit de marcher pendant Shabbat ou Yom Tov. En mettant de la nourriture, on aura le droit donc de marcher 2000 coudées supplémentaires dans la direction où cette nourriture a été déposée, où le Hérouv a été déposé. Donc selon cette halakha de Rav, une personne pourra mettre le Hérouv Troumine d'un côté de la ville pour le Shabbat, par exemple, qui est en premier, et pour marcher donc dans cette direction, à l'est par exemple, et pour le deuxième jour, il pourra déposer le hérouv dans la direction inverse, et comme ça, il pourra marcher pendant le deuxième jour dans la direction opposée, par exemple, à l'ouest. Donc nous voyons que, selon Rav, les Shabbat et Yom Tov qui se suivent sont considérés comme deux jours et non pas comme une longue journée. Si c'est comme ça, l'œuf pendu, le Shabbat, devrait être permis le lendemain. L'Agma répond, et là, c'est pourquoi nous dirons que Hacha be'achana de Rabba kamifalg. Ici, en fait, leur discussion se situe sur la compréhension du terme de Hachana, c'est-à-dire le manque de préparation que Rabba nous a enseigné, Daf Bet Amud Bet. C'est le principe, rappelons-le, selon lequel tout ce qui n'a pas été préparé avant le Shabbat ou le Yom Tov est interdit et mouxé. Alors, Rav Itle Hachana. Rav tient comme Rabba donc ce principe de Hachana dans le sens large du terme, et par conséquent, un œuf pondu le Shabbat sera interdit le lendemain le Yom Tov, parce que finalement, la ponte de l'œuf est considérée comme une préparation, puisqu'elle n'a pas eu lieu la veille de Shabbat. Donc cet œuf sera interdit le lendemain, le Yom Tov, ou bien vice-versa. Rabbi Yochanan, par contre, Rabbi Yochanan, l'et l'achana de Rabba ne tient pas du principe de achana que Rabba a enseigné, dans le sens large du terme. C'est pourquoi la ponte de l'œuf n'est pas considérée comme une préparation. C'est pourquoi l'œuf pondu le Shabbat sera permis le lendemain. Ketanaï. La Gemara nous dit que c'est comme, en fait, nous voyons que c'est une machloket tanaïm. La Braïta dit Nolda be Shabbat te'achel be Yom Tov. Un œuf pondu le Shabbat pourrait être mangé le Yom Tov. Be Yom Tov te'achel be Shabbat. L'œuf pondu le Yom Tov pourrait être mangé le Shabbat qui est le lendemain. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer Adain hi machloket. Ce sera toujours la même machloket qu'on a vu dans la première Mishnah, dans notre Mishnah. Chez Bet Shammai Omrim te'achel. Donc selon l'avis de Bet Shammai, cet œuf pourra être mangé. Parce que de toute façon, comme nous avons vu, Bet Shammai ne tient pas du tout du principe de Hachana, de Rabba, ou Bet Hillel Omrim, l'Oteachel. Par contre, selon l'avis de Bet Hillel, qui tiennent compte du principe de Hachana, donc cet œuf ne pourra pas être mangé, puisqu'il n'a pas été préparé avant pendant un jour de semaine. Ouch Pezichne, de Ravada Barava. L'hôtelier de Ravada Barava, Havule Hanach Betim, mi Yom Tov le Shabbat. Il a eu des œufs qui ont été pondus le Yom Tov. Et était intéressé de les manger le lendemain, qui était un Shabbat. Atar le Kameh, il est venu poser la question à Ravada Barava, à Marley. Alors l'hôtelier a demandé à Ravada Barava, Mai leatvuyinhu haïdna, est-ce qu'on a le droit de les faire cuire aujourd'hui, qui est le Yom Tov, le jour où ils ont été pondus, venifnu le machar, pour qu'on puisse les manger le lendemain, qui est un Shabbat. À Marley, alors Ravada Barava lui a répondu, Mai daater, qu'est-ce que tu penses? Rav de Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Yochanan, puisque nous avons une règle établie que partout où il y a une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, nous dirons que l'halakha ki Rabbi Yochanan, et donc dans ce cas, l'œuf pondu le Yom Tov pourra être mangé le lendemain le Shabbat, afil ou Rabbi Yochanan, même selon l'avis de Rabbi Yochanan, lo kashare, il ne permettait que, et là, le goma le machar. Il permettait juste de gober l'œuf le lendemain qui est un Shabbat, à Palbiomé, mais le jour où l'œuf a été pondu, l'eau. On n'a pas le droit de le toucher, donc on n'aura pas le droit de le cuire non plus, puisqu'il est moukté. Donc finalement, nous n'avons pas de possibilité de le manger cuit. Et cru, apparemment, il n'était pas intéressé. Ve'atania, nous voyons en fait une braïta qui étaye cet avis. Achat betah shenolda be'shabbat, soit un œuf pondu le Shabbat. Ve'achat betah shenolda be'yom tov, soit un œuf pondu le Yom Tov. El metal telimota, on ne pourra pas la transporter. Lo lechasot ba etakli, ni pour recouvrir un ustensile. Vlo nismoch ba kare amita, et ni pour soutenir les pieds d'un lit. Donc finalement, nous voyons de là que l'œuf, le jour où il a été pondu, si c'est un Shabbat ou un Yom Tov, il est moukté. Ouch pezichne de Rav Papa, l'hôtelier de Rav Papa. Vamrela haou gavra, une deuxième version qui dit que c'est en fait c'est un homme, mais c'était pas l'hôtelier de Rav Papa, Deata le Kamev de Rav Papa, qui est venu poser cette question à Rav Papa. Havule Hanach Betim Shabbat Yom Tov. Il avait des œufs qui ont été pondus le Shabbat et était intéressé de les utiliser le lendemain, qui était à Yom Tov. Alors, Atar le Kamev, il est venu donc devant Rav Papa. À Marley, il a posé cette question à Rav Papa. Maou le Mechlinou le Machav, est-ce qu'on a le droit de manger ces œufs le lendemain, donc le Yom Tov? À Marley, on lui a répondu Zila Idna. Va maintenant, je ne peux pas te répondre, veta le machar, et reviens demain, repose-moi cette question. Pourquoi? Des Rav, l'homme qui amoura allait, il avait. Rav ne disait pas de dracha en général, miomatava le chavre, le jour du Yom Tov, après le repas, jusqu'au lendemain, après la tfila, donc avant le repas. Mishum shichrut, à cause d'un état d'ébriété. En effet, à l'époque, pendant les repas du Yom Tov, ils avaient l'habitude de boire du vin, et il s'en suivait un état d'ébriété pendant lequel la Torah interdit d'enseigner ou de trancher des halakhot, comme nous voyons dans Parashat dans Vayikra, où la Torah dit au Kohanim tu ne boiras pas de vin, et à la suite il est écrit pour enseigner au Bnei Israël, c'est-à-dire même pour enseigner des halakhot au Bnei Israël, il ne faudra pas avoir bu du vin auparavant. Donc c'est pourquoi le jour même il n'a pas voulu donner la réponse à la question. Ki ata lemachar. Quand cette personne est revenue le lendemain poser la question à Rav Papa, à Marley, alors Rav Papa lui a dit, nous tournons la page à Daf Dalet Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
À Marley, alors Rav Papa lui a dit, nous tournons la page à Daf Dalet Amud Bet. Ichu Ashta. Si je t'avais répondu hier, comme je le fais maintenant, Ishtalaï, j'aurais oublié en fait une règle fondamentale. Ve'amrelecha, et en fait je t'aurais dit Rav ve'Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Yochanan. Nous savons que la règle est établie que chaque fois qu'il y a une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yochanan. Mais en fait ici c'est différent parce que voici que Amar a dit Rava, Hilchetak Vatederav, l'alacha est comme Rav, Behanetlat, à propos de ces trois halachot qui concernent l'œuf pendu le Shabbat ou le Yom Tov, Ben le Kula, Ben la Chumra, soit si Rav est le plus strict, soit s'il est le plus coulant. Une de ces trois halachot est donc la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan à propos de l'œuf pendu le Shabbat et qui est suivi d'un Yom Tov, et où nous avons vu que Rav est plus strict, il interdisait cet œuf même le lendemain, c'est-à-dire le Yom Tov. Nouveau sujet. Amar a dit Rabbi Yochanan, etzim shenashu min hadekel beShabbat, si des morceaux de bois sont tombés d'un palmier par exemple le Shabbat, asur la sikan beYom Tov, on n'aura pas le droit de les employer pour les faire brûler dans un four le Yom Tov qui suit ce Shabbat. Val teshiveni betza, et ne me pose pas la question, voici que moi Rabbi Yochanan j'ai permis l'œuf pendu le Shabbat et j'ai permis donc de le consommer le Yom Tov qui est le lendemain, parce que maitama betza, pourquoi j'ai permis l'œuf? Mishum de bioma nami chazel chazia le goma. En fait, le jour même où cet œuf a été pondu, le Shabbat, théoriquement, on aurait pu le gober, tout cru. Vlo kasharela adlemachar, et quand même, nous voyons que les chachamim ne l'ont pas permis jusqu'au lendemain. Donc, medayadia, les gens sauront que la halacha est, debat yoma asura, que le jour même où cet œuf est pondu, si c'est un Shabbat ou un Yom Tov, l'œuf est interdit à la consommation. Par contre, etzim, à propos des morceaux de bois de l'ochazoule omayou, qui ne peuvent pas être employés le jour même, si par exemple il se détache de l'arbre un Shabbat, parce que de toute façon on n'a pas le droit de faire brûler du feu, Isharel ou le Machar, si jamais on venait à le permettre, ces morceaux de bois, le lendemain qui est un Yom Tov, à Telememav, les gens viendront à dire que Beyomayhu Namisharu, même si le jour même où il se détache de l'arbre aussi, on a le droit de les utiliser. Ve'etmol Mishum Shabbat, Hu de l'Ochazul Asaka, et pourquoi on ne les a pas employés la veille, c'est-à-dire le Shabbat, parce qu'en fait c'est Shabbat où on ne peut pas faire brûler du feu. Et en fait, le morceau de bois qui se détache d'un arbre pendant le Shabbat ou le Yom Tov sont considérés comme mouksé. Amar a dit Rav Matna, etzim shenashru min hadekel, des morceaux de bois qui se sont détachés d'un palmier par exemple, le Toch Hatanur b'Yom Tov, sont tombés directement dans un four, et cela pendant Yom Tov. Donc puisqu'il n'y a pas à les transporter, théoriquement, il n'y aurait pas de problème de mouksé pendant Yom Tov, mais quand même, on n'aura pas le droit de les employer pour faire un feu, de peur qu'on vienne à les détacher directement de l'arbre pendant Yom Tov, et cela est interdit de la Torah, au moins s'il le fait pour un jour de semaine. À ce moment-là, l'acha est Marbe Alehem Etzim Mouchanim, il ajoutera sur ces morceaux de bois des morceaux de bois qui sont préparés, donc où il n'y a pas de problème de mouksé. Et à ce moment-là, puisque la majorité du bois dans ce four est composée de bois permis, Umasikam, il pourra ainsi allumer le feu dans ce four. La Gemara demande, Vehakamea Perbi Sura. Voici que même, il est vrai qu'il n'a pas besoin de les transporter pour les faire brûler, mais quand ce bois est transformé en braise, il faudra les bouger d'un endroit à l'autre pour pouvoir mettre une marmite dessus. Et à ce moment-là, il est en train de bouger du mouksé. La Gemara répond, qui vient de Rouba des terres animaux, puisque la majorité du bois et donc des braises est composée de bois permis, qui kame à père, beter à kame à père. Il se trouve donc que le bois, les braises qu'il est en train de bouger d'un endroit à l'autre dans le four, et en fait, sont en fait des braises permises. La Gemara demande, mais comment se fait-il qu'il a le droit d'ajouter des bois permis dans ce four, des hakame vateli sur le khatrila? Voici qu'il se trouve qu'il engage un processus d'annulation de quelque chose d'interdit, volontairement, vetnan, et voici qu'il est écrit dans une Mishnah, dans Maseret Trumot, en mevat le misur le khatrila, on n'a pas le droit d'engager un processus d'annulation de quelque chose d'interdit, et cela volontairement, si on le fait, ça ne marchera, le principe d'annulation ne marchera pas. La Gemara répond, hanemile bedoraita, quand ces choses sont dites, qu'on ne peut pas engager volontairement un processus d'annulation, ce n'est que s'il s'agit d'une interdiction, ou l'interdiction est minatora. Aval bederabanan, mevakli. Par contre, si l'interdiction en question est une interdiction miderabanan, on a le droit d'engager ce processus d'annulation, même volontairement. La Gemara demande, ou le Rav Ashi, et selon l'avis de Rav Ashi de Amar qui a dit, kol davar sheshlomatirim, à propos de toute chose interdite, mais qui sera permise par la suite, afilu bederabanan, même si cette interdiction est miderabanan, l'obatil, le principe d'annulation ne marche pas. Le chidouche de Rabashi était que même si l'interdiction était midrabanan, on ne pouvait pas faire marcher le principe d'annulation si cette chose interdite sera permise par la suite. Alors Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on pourra dire ici, puisque finalement l'interdiction de Mouxé sera permise après Yom Tov ou après Shabbat. L'agma répond, Hanemile, quand ces choses sont dites qu'on ne peut pas, le principe d'annulation ne marche pas si la chose sera permise par la suite. Ce n'est que quand on voudra tirer le, quand on veut tirer profit de cette interdiction, en fait, cet objet interdit existe encore. Haha. Par contre, ici, dans notre sujet où il s'agit de bois, dont le seul profit qu'on peut tirer, c'est de le faire brûler dans un feu, par le feu. Mikla kaleisura. Donc finalement, à chaque fois qu'on en tirera profit, le feu, cet objet interdit n'existera plus. À ce moment-là, on ne pourra pas considérer cela comme une chose qui sera permise par la suite. Et c'est pourquoi, donc, le processus d'annulation, le principe d'annulation pourra marcher. Itmar. Nous avons enseigné une discussion à propos du sujet suivant. Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Les deux jours de Yom Tov qu'on fait dans la diaspora, c'est-à-dire les deux jours de Yom Tov, par exemple, de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Rav Amar a dit Nolda Beze, Muteret Beze. Un œuf pondu le premier jour de Yom Tov sera permis le deuxième jour. Rav Asi Amar a dit Nolda Beze, Asura Beze. L'œuf pondu le premier jour de Yom Tov sera aussi interdit le deuxième jour. Lema Kasava Rabasi, est-ce qu'on pourra dire que Rabasi pense Kudusha Achati, que les deux jours de Yom Tov qui se suivent sont considérés comme un seul long jour, et donc c'est pourquoi ce qui est interdit le premier jour sera aussi interdit le deuxième jour? Ce n'est pas possible. Veha, voici que Rabasi Mavdil Miyomatava le Chavre. Rabasi avait l'habitude de faire Abdallah entre le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour de Yom Tov. Parce qu'il puisque en fait, Minatora, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov qui existe, et en fait, on fait deux jours de Yom Tov à cause du doute, comme nous l'expliquerons. Il se trouve donc finalement, ce n'est que ou le premier jour qui est Yom Tov, ou le deuxième qui est Yom Tov. C'est pourquoi Rabasi avait l'habitude de faire l'Abdallah entre le premier jour et le deuxième jour. Finalement, donc nous voyons que Rabasi ne considère pas ces deux jours comme une seule longue journée. L'Agma répond, Rabasi, c'est fou qu'il aime Safkele. En fait, Rabasi lui-même était en doute. Est-ce que les Chachamim ont, à cause du doute qu'il y avait, à savoir quand était fixé le Rosh Chodesh, donc ont institué de faire toujours deux jours du Yom Tov, et cela même si on saura, ou on aura la possibilité de savoir quand est fixé le Rosh Chodesh, par exemple si on connaît exactement le compte de la révolution de la Lune, ou bien c'est juste à cause du doute qu'on faisait ces deux jours du Yom Tov, et si par exemple on a la possibilité de savoir quand est fixé le Rosh Chodesh, effectivement, on n'aura pas besoin de faire les deux jours. Et donc c'est pourquoi Vavid Hacha le Chumra, il fait d'un côté le Chumra, il pense peut-être que c'est une institution de Chachamim de faire ces deux jours du Yom Tov, donc on considérera ces deux jours comme un seul long jour, et c'est pourquoi l'œuf pendu le premier jour sera interdit le deuxième jour. Vehacha le Chumra, par contre à propos de Havdalah, il considérait que peut-être c'est juste à cause du doute qu'on le faisait, et si le doute s'annulera, on n'aura pas besoin de faire les deux jours, et c'est pourquoi donc il considère ces deux jours comme deux jours séparés, la Chumra, et c'est pourquoi il faisait l'Avdala entre les deux jours. Amar a dit Rabbi Zera, Kevate de Rabasi Mistabra, il est plus logique de penser comme Rabbi Zera. De Haïdna, Yadina Bekvi Adeacha, aujourd'hui nous avons la possibilité de savoir quand est fixé le Rosh Chodesh. En d'autres termes, à l'époque de Rabbi Zera, ils avaient appris les calculs à savoir exactement le cycle de la Lune et de savoir quand est-ce qu'elle apparaîtra, quand apparaîtra la nouvelle Lune. Et donc, on peut savoir quand est fixé le Rosh Chodesh. Le Kavdilan Tréomé, et quand même, on continue à faire deux jours. Donc, c'est pourquoi il est plus logique de comprendre que c'est en fait une institution de Chachamim de faire ces deux jours de Yom Tov. Et donc, on les considérera comme un seul long jour. Et l'œuf pondu le premier jour sera interdit le deuxième jour. Par contre, Rabbi Zera n'a pas voulu dire que qu'il voulait tenir entièrement comme l'avis de Rabasi qui faisait Abdallah entre les deux jours, parce qu'en fait, lui pense que c'est effectivement un seul long jour, d'une part, et d'autre part aussi, nous pensons que, comme le souligne le Rajba, qu'on ne fait pas quelque chose, même le deuxième jour de Yom Tov, qui puisse entraîner une négligence de Yom Tov. Nous avons fini le shiur de Betzad Avdalet. commençons le shiur de Betzad Afé. Nous commençons d'Afbet Amoud Bet à cette ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent une machloket entre Rav et Rabassi concernant les deux jours de Yom Tov pratiqués en diaspora pour les fêtes de Pessah, Shavuot et de Sukkot, à savoir si ces deux jours de fête sont considérés comme une seule longue journée. Donc c'était l'avis de Ravassi, et par conséquence, l'œuf pondu le premier jour de Yom Tov sera interdit le deuxième jour, ou bien, comme Rav le dit, ces deux jours sont considérés comme deux jours séparés, et donc l'œuf pondu le premier jour sera permis le deuxième jour. Cette machloquette dépend de la raison pour laquelle nous faisons ces deux jours de Yom Tov. En effet, au départ, le calendrier juif étant basé essentiellement sur le cycle lunaire, qui est de 29 jours et demi et des poussières, le mois donc pouvait avoir soit 29 jours, soit 39 jours. Donc le début du mois était fixé à la suite d'un témoignage de l'apparition de la nouvelle lune. À la suite de cela, le tribunal fixait le Rosh Chodesh. Le tribunal ensuite envoyait des émissaires dans toutes les communautés juives pour annoncer quel était le jour où avait été fixé le Rosh Chodesh, donc si ce mois avait, le mois passé avait 29 jours ou 30 jours. Et c'est ainsi que le calendrier se perpétuait. Comme les émissaires ne pouvaient pas toujours arriver aux communautés éloignées d'Eretz Israël avant Yom Tov, il y avait toujours un doute donc quant au jour auquel le Rosh Chodesh a été fixé, et donc certaines communautés ne pouvaient pas savoir quand est-ce que le Yom Tov tombait. C'est pourquoi, à cause du doute, il faisait deux jours de Yom Tov. Le problème se pose, c'est qu'à la fin de la période de la Gemara, le calendrier a été fixé par un des Amoraïm qui s'appelait Hillel, qui était d'ailleurs le Nassi. Donc en fait, aujourd'hui, nous savons exactement quand le Rosh Chodesh tombe et nous connaissons exactement le calendrier. Quand même, nous continuons à faire deux jours de Yom Tov. Alors, Rabbi Zera, justement, a prouvé l'opinion de Ravassi en disant que puisque aujourd'hui nous connaissons la date du calendrier, quand même nous faisons deux jours, cela prouve que le Chachamim avait institué comme règle générale de faire toujours deux jours de Yom Tov, ce qui fait donc que et par conséquent, ces deux jours seront considérés comme une seule longue journée. Par contre, Rav discute, pense que c'est considéré comme deux jours séparés, et c'est ce que nous allons expliquer. Amar Adi Abaye, Kvate de Rav Mistabra, il est plus logique de dire comme l'avis de Rav, qui dira plus loin que les deux jours du Yom Tov sont considérés comme deux jours séparés, d'Etnan, parce que nous voyons dans une Mishnah de Rosh Hashanah, Barishona Hayu Masi'in Masuot. Au départ, quand le Rosh Chodesh avait été fixé, le tribunal envoyait des émissaires sur les hautes montagnes, avoisinant le tribunal, et faisait balancer des torches de manière à faire connaître, c'est un signe connu par les gens, de manière à savoir quand le Rosh Chodesh a été fixé. Michekil Kelo Akutim, quand les QTIens, qui étaient des ennemis des Bnei Israël, qui essayaient tout pour aller contre la loi juive, donc ils ont une fois trompé les diasporas en agitant des torches à une date qui n'était pas la date de Rosh Chodesh. Hitkinu sheyu shluchim yotzin. Alors le tribunal a aboli ce système de balancement de torches, mais ont décrété que des émissaires sortiront annoncer aux communautés la date à laquelle le Rosh Chodesh a été fixé. Ve'ilu batlukutin. Alors maintenant, nous voyons donc de cette Mishnah que si jamais il n'y a plus à craindre des coutumes, donc des gens qui veulent aller contre la loi juive et qui essaieraient de tromper les communautés, Avdinan Khadioma, on pourrait donc réinstaurer ce système de balancement de torches et donc tout le monde pourrait faire un jour de Yom Tov. Ve'echa de Matushluchin, et aussi là où les émissaires arrivent, donc les envoyés du Beddin arrivent pour annoncer la date du Rosh Chodesh, Avdinan Khadioma, nous faisons aussi un jour de Yom Tov. Ve'hashta de Adinan Bekviya de Archa. Et maintenant que nous savons, nous connaissons le calendrier juif, comment il doit être fixé, Maitama Avdinan Treyome, pourquoi est-ce qu'on continue à faire deux jours, puisque nous savons quand le Rosh Chodesh a été fixé? La réponse est Mishum de Shalchum Etam. Parce que des Amoraïm ont envoyé des Eretz Israël, Hizaharu Beminhag Avotechem Beyedchem. Continuez à garder le minhag de vos parents qu'il y a chez vous, c'est-à-dire de faire ces deux jours du Yom Tov. Pourquoi? Zimnin de Gazra Malchut Gzera. De peur que le royaume, c'est-à-dire les goyim, fasse un décret qui vienne viser l'empêcher l'étude de la Torah, va-t-il les calculer, et il se trouve donc qu'ils oublieront le calendrier juif et se retrouveront dans le doute. Donc en fait, la raison pour laquelle nous continuons à faire deux jours de Yom Tov, c'est parce que nous craignons de retomber dans le doute, et donc c'est toujours à cause du doute, finalement, nous considérons comme si nous ne savons pas, connaissons pas le calendrier, et c'est à cause du doute que nous continuons à faire deux jours. Donc finalement, si ce n'est qu'à cause d'un doute que nous continuons à faire deux jours, les deux jours de Yom Tov ne seront pas considérés comme une seule longue journée, mais comme avant, c'est-à-dire comme deux jours séparés, où en fait, un des deux jours est le Yom Tov, mais le deuxième jour est sûrement un jour de semaine. Et donc, par conséquent, l'œuf pondu le premier jour sera permis le deuxième jour, de toute façon. Nous avons vu déjà plus haut, au début de d'Avdal et Amud Bet, que Rava a dit que il y avait trois discussions où l'Halakha était comme Rav. Cela est la deuxième discussion où l'Halakha sera comme Rav. Donc, pour les jours de Yom Tov de Pessah, Shavuot, Sukkot, si un œuf pendu le premier jour sera permis le deuxième jour. Itma. Nous avons vu une machloquette à propos du sujet suivant. Shnei Yamin Tovim shel Rosh Hashanah. À propos des deux jours de Yom Tov que nous pratiquons le Rosh Hashanah, Rav ou Shmuel Damre Tarvayu. Rav ou Shmuel disent tous les deux, Nolda Bezeh Asura Bezeh, l'œuf pendu le premier jour de Rosh Hashanah sera interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc là, nous voyons que les jours de Rosh Hashanah sont différents aux jours de Yom Tov normal. La Gemara va expliquer. Détnan. Parce que nous voyons dans une Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah. Barishona, au départ, Hayu Mekablim Edut HaChodesh Kol Hayom. Le tribunal siégeait toute la journée dans l'attente d'un témoignage. Et donc, ils acceptaient le témoignage sur l'apparition de la nouvelle lune. Et cela, pendant toute la journée. Pamachat Nishtahu Edim Lavo. Une fois, il est arrivé que les témoins ont été retardés, ils sont arrivés très tard. Nous passons à Daf Heyamud Aleph. Ces témoins étaient arrivés après l'offrande du Korban Tamid de l'après-midi, et par conséquent, Venit Kalkelu, Halvim Bashir, donc l'Ilvim qui chantait les cantiques au moment de l'offrande du Korban Tamid, se sont trompés de cantiques. En effet, le jour d'Or Chodesh, il y avait un cantique spécial de tiré du Sefer Tehilim. En fait, le matin, puisque en général les témoins n'arrivaient jamais avant l'offrande du Korban Tamid du matin, l'Elvim toujours chantait le cantique du jour de la semaine, sans tenir compte qu'il est possible que ce soit un Rosh Chodesh, et cela même si les témoins étaient arrivés. Par contre, pour l'offrande du Tamid de l'après-midi, puisque en général les témoins étaient déjà arrivés, donc ils étaient tenus de chanter le cantique de Rosh Chodesh, si effectivement c'était un Rosh Chodesh. Là, exceptionnellement, les témoins étaient arrivés après l'offrande du Korban Tamid, il se trouve donc qu'il s'était trompé de cantique. C'est pourquoi Hitkinu, le tribunal institué, Shloyu Mekablim Edim, El Adamincha, que les témoignages concernant l'apparition de la nouvelle lune seront acceptés jusqu'à Mincha, donc que jusqu'à l'offrande du Korban Tamid de l'après-midi. Par conséquent, donc, pour Rosh Hashanah, qui est aussi un Rosh Chodesh, dès la veille du 30e jour de Elul, donc qui peut déjà être tombé le Rosh Chodesh, donc le Rosh Hashanah, alors on acceptait le Yom Tov à cause du doute peut-être que le lendemain des témoins viendront et nous diront que le Rosh Chodesh effectivement est déjà maintenant. S'ils ne viennent pas pendant toute la journée, alors il y aura un jour supplémentaire. Maintenant, Vim Baou Edim Mina Mincha Ulmala, donc à partir de cette institution, si des témoins viennent à partir de Mincha, donc à partir de l'offrande du Korban Tamid et plus tard, Nohagim Oto Ayom Kodesh Ulmachar Kodesh. Quand même, le tribunal n'annulera pas le premier jour de Rosh Hashanah, mais ils continueront à pratiquer le Yom Tov ce premier jour-là, et puis le jour suivant sera le vrai Rosh Hashanah. Donc il se trouve qu'en fait, il y a une possibilité, exceptionnellement pour Rosh Hashanah, où les deux jours de Rosh Hashanah ne soient pas pratiqués à cause d'un doute, mais à cause d'une institution, et cela pour ne pas que les gens viennent à négliger le premier jour de Rosh Hashanah, puisque les témoins ne sont pas encore arrivés. Alors, en diaspora, ou en dehors du tribunal, où personne ne sait ce qui se passe effectivement à Rosh Hashanah, donc toujours, il y a une possibilité qu'il y ait deux jours de Rosh Hashanah, mais pas à cause du doute, mais à cause de ce problème que des témoins soient arrivés après Mincha. C'est pourquoi, donc, les deux jours de Rosh Hashanah seront plus chamour, et nous les considérons comme un seul long jour, au moins à cause de ce doute. Et c'est pourquoi l'œuf pondu le premier jour de Rosh Hashanah sera interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah. אמר רבי רבא, מתקנת רבי רבן יוחנן בן זכאי ואילך, à partir de l'institution de Rabban Yochanan ben Zakkai et plus tard, Betsamuteret, l'œuf pendu le premier jour de Rosh Hashanah sera permis le deuxième jour de Rosh Hashanah. D'etnan, parce que nous voyons dans une Mishnah dans Rosh Hashanah, Mishecharav Betamigdash, une fois quand le Betamigdash a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué chez Yehu Mekablim Edut Achodesh Kolayom. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai a institué qu'on accepte les témoignages concernant l'apparition de la nouvelle lune, et cela toute la journée. Parce que maintenant, une fois le Beit HaMikdash détruit, donc il n'y a plus de korbanot offert, il n'y a plus ce problème donc que les Lévim se trompent à propos des cantiques. Donc il n'y a aucune raison de ne pas accepter les témoignages pendant toute la journée. Si c'est comme ça, il n'y a plus de possibilité qu'il y ait deux jours de Rosh Hashanah à cause de l'institution de Chachamim, ce sera toujours à cause du doute qu'on fera deux jours de Rosh Hashanah si on ne sait pas quand les témoins sont arrivés. Donc c'est pourquoi les deux jours de Rosh Hashanah seront considérés comme les deux jours du Yom Tov habituels, et donc nous les considérons comme deux jours séparés, et l'œuf pendu le premier jour sera permis le deuxième jour. Amar le Abaye, Abaye a posé cette question à Rabba, Veha Rav Shmuel.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.